Alors, ecclésiologiquement, si vous avez raison dans l'éther des principes que l'Église ne peut pas nous donner de fruits empoisonnés, concedo, comme on dit, je suis bien d'accord. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Prenons l'exemple d'un texte que vous connaissez, mais que nos téléspectateurs connaissent peut-être moins. C'est le bref examen critique de la Nouvelle Messe. Donc, la promulgation de la Nouvelle Messe a lieu en avril 1969. En avril 1969, cette messe est promulguée et il y a une présentation générale qui donne l'intention de la réforme qui est faite. Cette présentation générale contient en particulier un article 7. Cet article 7 dit, je l'ai là, « La scène dominicale et la synaxe sacrée, où le rassemblement du peuple de Dieu, se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur, c'est pourquoi, vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église, la promesse du Christ, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. » Donc là, on est en avril. Immédiatement, un certain nombre de théologiens disent « Non mais attendez, c'est une définition d'une scène protestante, pas de la messe !» Ce qui amène deux cardinaux, le cardinal Ottaviani, qui est l'ancien préfet du Saint-Office, le cardinal Bacci, qui est d'abord et avant tout un latiniste, à écrire à l'automne un document où ils attirent l'attention du Saint-Père sur le fait, là aussi, le nouvel ordo s'éloigne de manière impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte-Messe telle qu'elle a été définie à la 22e session du Concile de Trente. Là, on est à l'automne. Et le pape prend tout ça en compte. Et un an plus tard, donc au mois de mars 1970, il fait changer ce fameux article 7. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous évoquez sur l'indéfectibilité de l'Église, pendant un an, eh bien, le document officiel, ça a été un document, je dirais, relativement ambigu. Donc cette indéfectibilité de l'Église, il faut y croire, mais là, ça marche pas. Deux autres exemples, si vous le permettez. L'affaire du consubstantiel, c'est-à-dire au moment de la réforme liturgique, consubstantialem patri, donc le fils consubstantiel au père, est traduit en français par de même nature, ce qui est théologiquement faux. C'est l'exemple qu'avait pris le cardinal Danielou avec Étienne Gilson, donc avait dit, voilà, deux poireaux, eh ben ils sont de même nature, mais ce qui unit le père et le fils, c'est pas comme ce qui unit les deux poireaux. Et ça, pendant des décennies, ça a été enseigné, ça a été énoncé par les fidèles. Et donc, pendant des décennies, on a fait raconter des choses qui n'étaient pas correctes aux fidèles. Troisième exemple, nous en sommes rendus, en l'espace de 40 ans, à la troisième traduction de la demande du Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, alors qu'avant c'était ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ben là, par rapport à ce que vous dites, qui intellectuellement a toute l'adhésion de ma foi, je crois qu'il y a aussi la réalité dans tous ces exemples que je viens de donner, soit pendant un an, soit pendant des décennies, et ben objectivement, l'Église, par ses autorités supérieures, eh bien, à donner, à croire et à énoncer aux fidèles des choses qui n'étaient pas parfaitement catholiques.
Et alors, est-ce que ça veut dire que l'Église a été défaite?
Mais on dit d'un côté, les homosexuels pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. Ce que je veux dire, c'est que s'ils sont homosexuels, c'est que quelque part, ils ont embrassé cette culture. Donc, pourquoi cet accès à la prêtrise, la question?
Non, alors encore une fois, il dit comme ça, c'est faux, le document ne dit pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique fait une distinction dans le catéchisme de l'Église entre les tendances homosexuelles et l'homosexualité active. Et en fait, la doctrine de l'Église, ça a toujours été que les tendances homosexuelles ne sont pas du tout un péché. C'est-à-dire que le fait d'avoir des attirances, en soi, c'est pas un péché.
Vous dire, les tendances homosexuelles ne sont pas un péché?
Non, sauf si elles changent non, ce ne sont pas empêchés, non, c'est pas empêché, voilà. Ce qui est empêché, ce sont les actes homosexuels.
Oui, enfin.
Ce qui est considéré comme un péché par l'Église catholique.
Oui, oui. Mais alors, oui, allez-y, allez-y,
donc,
je vous en prie.
Ce que dit le document, c'est que quelqu'un qui aurait des tentations ou des tendances ou une attirance, bah, en soi, si ce n'est pas quelque chose qui va changer son comportement extérieur, si ce n'est pas quelque chose qui va être revendiqué comme une culture ou comme une revendication LGBT, alors ça n'est pas du tout un empêchement pour être prêtre.
Oui.
C'est exactement comme les tendances hétérosexuelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des tendances hétérosexuelles, pour être prêtre, puisqu'on fait un vœu de célibat, un vœu de chasteté, eh bien, il faut que ce ne soit pas des tendances qui vont contrarier ce vœu de célibat ou de chasteté,
c'est ça.
Exactement, exactement.
D'accord.
Donc, les tendances hétérosexuelles non plus ne sont pas un péché. Ce qui est un péché, c'est alors qu'on a fait un vœu de chasteté, les actes.
Oui, vous voulez dire, ce qui a péché, c'est d'incarner ces tendances, enfin, de les pratiquer, c'est ça.
De les pratiquer ou de les revendiquer comme une cause à défendre.
D'accord.
C'est ça qui est impliqué dans le texte.
D'accord. Non, mais justement, c'était bien de clarifier parce que ce que nous avons lu, évidemment, j'ai pas lu le texte de 68 pages, mais au fond, parce qu'on voit très très bien, le pape François lui-même conseille aux homosexuels qui voulant devenir prêtre d'aller voir un psychologue, il a été assez clair en tout cas là-dessus. Donc vous dites, il n'y a aucune évolution là-dessus, c'est simplement, vous pouvez vous sentir homosexuel, mais à partir du moment, si j'ai bien compris, je répète, à partir du moment où vous ne commettez pas, disons, l'acte de chair ou l'acte où vous ne rompez pas le célibat, il n'y a pas de problème.
Oui, je dirais exactement, c'est ça.
Monsieur l'abbé ?
Oui ?
Vous en pensez quoi des CD vacantistes ?
Il faut bien comprendre déjà ce que c'est qu'un CD vacantiste. C'est ceux qui refusent aujourd'hui, ou plutôt qui considèrent que le siège de Pierre, le rôle du pape, n'est plus assumé, que le pape n'est pas pape, et que le siège est vacant, que le Rome n'a plus de gouvernant. C'est un peu compliqué à mon sens de tenir cette thèse, parce que le Christ a assuré qu'il y aurait toujours quelqu'un pour guider la barque de l'Église. Et être sédé vacantiste aujourd'hui, c'est un manque de foi dans l'Église, je pense. Et on doit justement avoir cet élan de confiance et de se dire que peut-être que les hommes sont compliqués, que parfois on a du mal à comprendre quelle est la ligne de conduite de l'Église ou des représentants de l'Église, mais on ne choisit pas qui sont nos pères. Hein. Ils sont confiés par l'Église aux hommes que nous sommes, et on doit avoir un peu de confiance. Et de toute façon, tout change. Donc il faut avoir un grand respect pour la hiérarchie ecclésiastique et se soumettre humblement aux aléas du temps sur ce sujet.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé.
Je vous en prie.
Les cédévacantistes partent du principe que le pape, ayant pour mission de confirmer les autres membres de l'Église dans la foi, ne peut pas lui-même être hérétique. Et parce qu'il voit des papes dire des hérésies, et on ne peut pas dire que François n'apporte pas de l'eau à leur moulin, ils en déduisent qu'il n'y a plus de pape, et ce depuis Pie XII. Le siège de Pierre serait donc vacant, d'où le terme de cédévacantisme. Mais ils ne voient pas la contradiction inhérente à leur raisonnement. Car si, par principe, les papes ne peuvent pas être hérétiques, alors ils n'ont pas pu non plus constater qu'il y en a, ni penser que Jésus a livré son Église à l'hérésie. Le pape, comme tout homme, a à faire son salut, et il peut donc le manquer, en trahissant sa mission. Il n'en reste pas moins pape pour autant, comme un père de famille reste père, même s'il s'en montre indigne. Trop de papes tue le pape.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Dans une première partie, nous allons parler de l'actualité spirituelle, et en particulier des dernières déclarations de Mel Gibson, faites devant la terre entière, et des déclarations cédévacantistes. Et dans une deuxième partie, je répondrai à différents acteurs modernistes qui se sont attaqués justement à la position cédévacantiste. Et je dirais, comme d'habitude, quelques mots de l'actualité spirituelle. Ce soir, Pierre Tirmont est avec moi à la technique. Alors tout d'abord, comme vous le savez, nous commençons en faisant des petites annonces pour réagréger la qualité françoise. Donc tout d'abord, chers amis, n'hésitez pas, si vous cherchez un bon bouquin, à passer chez nos amis de la librairie française, au 202 rue Lecourbe. Dans le 15e arrondissement, métro Convention notamment, Convention Vaugirard, c'est équidistant. Et la librairie française, comme je vous l'ai déjà dit, est en train de devenir un bastion de, je dirais, un bastion de francité, mais je dirais de coagulation françoise. À cet égard, Alain Pascal fera une conférence à la librairie, donc vendredi 31, je crois que ça commence à 18h30, enfin, il faut être là-bas à 18h30, et le thème c'est Luther et la cabale. Voilà, donc conférence d'Alain Pascal le 31 janvier. Ensuite, si vous cherchez mon bouquin, chers amis, bah vous pouvez aller sur le site des Vrais, n'est-ce pas, le site des éditions Les Stockades, et vous pourrez trouver notamment Parole de Pape, qu'on citera peut-être aujourd'hui, et l'ouvrage que nous avons réédité sur Gambetta et pour lequel j'ai fait une longue préface. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la guerre de 1870 et la cause de nos défaites, ma foi, je vous invite à lire ce bouquin. Ensuite, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons. Appel aux dons pour l'école Les Trois Sergents en Belgique, appel aux dons pour Notre-Dame Auxiliatrice en Bretagne dans la commune de Béton, appel aux dons pour l'école Saint-Expédite à Guingamp. Tous les liens sont en description si jamais vous avez les coups des franches financièrement, n'hésitez point. Concernant d'ailleurs l'école Notre-Dame Auxiliatrice, il y aura une journée porte ouverte également le 31 janvier, de 17h30 à 19h, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. 31 janvier, de 17h30 à 19h, vous avez une journée porte ouverte à Notre-Dame Auxiliatrice. Donc, si vous êtes breton, ma foi, n'hésitez point. Aussi, n'hésitez pas, si vous voulez faire un don, vous pouvez faire un don au monastère de l'œuvre de l'Étoile, le lien est en description. Je crois aussi qu'on peut faire en description, mon cher Pierre de Chamon, il y a un lien pour faire un don aux Sœurs du Christ Roi. J'oublie sans doute des choses. Bon, ça me reviendra. Alors, par ailleurs, je souligne aussi donc, que si vous cherchez des objets religieux, d'ailleurs, ou non religieux, vous pouvez aller sur la petite brocante de Saint-Joseph. Le lien est en description. Pierre de Chamon, n'est-ce pas, vous me confirmez? Voilà. Également, le 29 janvier, vous pouvez aller, donc mercredi 29 janvier, si je dis pas de bêtises, vous pouvez aller au spectacle de Laurent Studer, si vous êtes parisien, qui est à quelle heure, Pierre-Tiron, rappelez-moi ?
18h30.
Et vous avez le nom du théâtre ?
Théâtre du Nord.
Voilà, donc Théâtre du Nord à Paris. Il y a des liens en description, je crois. 18h30, donc le spectacle s'appelle du 17e siècle à la 17e chambre, et c'est un spectacle qui repose sur les fables de La Fontaine, chers amis, donc c'est un spectacle qui élève les esprits. Voilà, et également, je l'annonce en avance, Fête des Amis d'Alain Pascal, donc ça sera le 29 mars prochain, voilà. Petite nouvelle également de la chaîne YouTube Défense de la Foi. Une nouvelle vidéo vient d'être postée. Vous savez que le pape Honorius est accusé par beaucoup d'avoir été hérétique. C'est faux, puisque le concile qui l'a condamné ne l'a pas du tout condamné en qualité d'hérétique formelle. Et Pie IX est venu défendre le pape Honorius en donnant une approbation à un texte de Monseigneur Plantier. J'ai bien dit Plantier, évêque de Nîmes. Pourquoi ? Parce que j'avais fait une erreur. La première fois que j'ai parlé de la lettre pastorale de cet évêque, j'avais dit Pelletier. En fait, Pelletier, c'était l'évêque qui avait regroupé différents textes du livre en question. Mais l'évêque qui a fait une lettre pastorale approuvée par Pie IX, c'est l'évêque de Nîmes, Monseigneur Plantier. Je remercie les personnes qui me l'ont fait remarquer. Voilà. Bref, chers amis, Pie IX, le pape qui a défini l'infaillibilité pontificale, défend l'orthodoxie du pape Honorius. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, enfin j'espère, parce que traditionnellement j'oublie toujours quelques trucs. Hein. Je vous annonce d'ores et déjà aussi que j'avance énormément sur mon nouveau bouquin sur Pétain, De Gaulle, Vichy, etc. On parlera de nombreux personnages de cette période, et il y a beaucoup d'injustices à réparer, il y a beaucoup d'hommes à réhabiliter. Ça va être le livre le plus épais que j'ai jamais écrit. Je pense qu'il fera à peu près la taille de celui-là, vous voyez. Donc c'est un beau bébé, hein, quand même. Hein. ça va être du très lourd. Voilà, je vous le dis moi-même, alors que je connais le dossier enfin, quand même assez bien depuis de longues années, je tombe des nues en découvrant certaines choses. Et je ferai de très nombreuses émissions sur l'affaire Pétain, chers amis. Et je pense que je ferai un cycle de conférences à la librairie Françoise, éventuellement au CDH si on m'invite. Mais je ferai, je pense, des conférences à la librairie Françoise au printemps. Et je vous garantis que ça va déménager. Voilà, je parle à l'ancienne, Pierre-Tier. Donc ça va déménager. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. On va attaquer. Hein. Donc nous allons attaquer, chers amis, par l'actualité spirituelle. Et à ce sujet, je tiens à commencer cette émission par un commentaire sur le débat qui a eu lieu il y a quelques jours sur TV Liberté entre deux conciliaires au sujet de la pseudo-messe Paul VI. C'est donc ce débat a eu lieu entre M. Jean-Pierre Maugendre, qui est de tendance conciliaire conservateur, et le directeur de la Nef, qui lui est un conciliaire progressiste, beaucoup plus assumé. Le passage que nous avons mis en introduction est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous aide à comprendre comment les tradis, donc les traditionalistes, ont perdu la foi. Quand je parle de tradis, je vise la Fraternité Saint-Pédis, les différents groupes lefévristes, les ex-communautés Ecclesia Dei et les conciliaires conservateurs. Voilà. Alors, expliquons-nous. Le directeur de la Nef, lors de ce débat, oppose à Jean-Pierre Maugendre qu'en raison de l'indéfectibilité de l'Église, il n'est pas possible que l'Église et les papes aient soumis, enfin, leur pape, hein, aient soumis aux fidèles un rite qui soit déficient. Et effectivement, la pseudo-messe Paul VI, chers amis, on ne le répétera jamais assez, est invalide et hérétique. Jean-Pierre Maugendre réplique, et il lui dit ceci, en substance. C'est vrai, il y a le principe d'indéfectibilité de l'Église. Mais il y a aussi les faits. Et les faits, c'est que l'Église, selon Jean-Pierre Maugendre, a professé le faux ces dernières décennies. Et il donne des exemples. Par exemple, il donne le fameux article 7 de l'Institutio Generalis, qui avait instauré la pseudo-messe Paul VI, et dans lequel, pendant près d'un an, eh bien, il y a eu une définition hérétique de la messe. C'est-à-dire qu'un pseudo-pape a donné une définition hérétique de la messe. Bon. Il évoque aussi des catéchismes qui enseignaient le faux. Sur le plan du constat, c'est assez incontestable. Hein. Mais Jean-Pierre Maugendre, ce qui est très intéressant, va faire, je dirais, une mauvaise conclusion. Il va inverser l'ordre des priorités. Je m'explique. Jean-Pierre Maugendre observe une discordance entre le dogme, l'indéfectibilité de l'Église, et l'infaillibilité. Elle n'est pas nommée, mais c'est son corollaire, je dirais. Donc il observe une discordance entre l'indéfectibilité de l'Église et les faits. Et que conclut-il ? En tout cas, pas les faits, mais les apparences factuelles. Je dirais comme ça plutôt. Comment conclut-il ? Il conclut dans cette vidéo en disant que l'indéfectibilité de l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement rare, donc ça explique pourquoi on a eu la présence de ces erreurs. Donc Jean-Pierre Maugendre ne s'en rend pas compte, enfin j'espère qu'il ne s'en rend pas compte, mais il nie le dogme de l'infaillibilité en disant qu'elle est extrêmement rare. Il nie le dogme aussi de l'indéfectibilité en disant que c'est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce que si l'Église n'est indéfectible qu'à de très rares moments, ça veut dire que tout le reste du temps, elle est défectible. Ça veut dire que tout le reste du temps, elle est faillible. Et donc, ça veut dire que c'est une Église faillible, chers amis. Donc, Jean-Pierre Maugendre, en restreignant le champ de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité, nie ses dogmes. Pourquoi fait-il cela ? Pour faire cadrer son nouveau dogme avec les apparences factuelles. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un raisonnement inversé, d'un point de vue catholique. Quel raisonnement aurait-il fallu faire à partir du moment où on constate qu'il y a une discordance entre le dogme et les apparences factuelles ? Si discordance il y a entre le dogme et les apparences factuelles, c'est parce que les apparences factuelles sont trompeuses. Et c'est parce que l'entité que nous avons face à nous et qui prétend être l'Église n'est pas l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fausse Église. C'est une secte moderniste. Voilà pourquoi elle enseigne l'erreur. Voilà pourquoi elle est défectible. Voilà pourquoi elle est faillible. Donc, dans le raison de Jean-Pierre Maugendre, on fait prévaloir les apparences factuelles sur le dogme qu'on restreint et qu'on finit par nier. Dans le raisonnement catholique, on fait prévaloir le dogme, on le répète tel que l'Église l'a toujours enseigné, et on arrive à la conclusion que les apparences factuelles sont trompeuses et que nous avons face à nous des imposteurs. Donc, voilà comment les tradis, chers amis, ont perdu la foi. Les tradis ont perdu la foi en s'attachant plus aux apparences factuelles qu'aux dogmes. Eh bien, nous, catholiques, donc de position non unicum, c'est-à-dire sédévacantiste, nous faisons prévaloir le dogme sur les apparences factuelles. Voilà. Ensuite, chers amis, arrivons à Bergoglio. Le 16 décembre dernier, Bergoglio a fait un discours au Vatican devant la délégation, devant une délégation du, passez-moi mon antisèche, du Conseil méthodiste mondial. Je précise que les méthodistes sont des dissidents de l'anglicanisme. Donc c'est une fraction dissidente de l'anglicanisme. Donc c'est des archi-hérétiques. Hein. Bon. Et dans cette délégation, il y avait notamment une femme qui était entre guillemets évêque, Madame Debra Wallace Paget. Pierre Tiron, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre les pièces numéro 1 et 1 bis ? Qu'a dit Bergoglio, chers amis, pendant ce discours ? Plusieurs choses. D'abord ceci. Depuis 60 ans, nous progressons ensemble. Cela nous aide à approfondir la communion entre nous. Propos étonnant. Bergoglio prétend être pape et catholique. Comment peut-il dire qu'il est en communion avec une religion qui n'est pas le catholicisme ? Vous avez compris, chers amis, Bergoglio n'est pas en communion avec le catholicisme, mais il prétend l'être. Hein. Bon. Eh bien, Bergoglio va nous donner la réponse un peu plus loin. Lorsqu'il évoque les 1700 ans du Concile de Nicée, il nous dit ceci. Accrochez-vous. Cet anniversaire nous rappelle que nous professons la même foi. Donc Bergoglio nous dit que catholiques et méthodistes professent la même foi. Le sens de la phrase est incontestable, chers amis. Sujet, verbe, complément. Il est d'autant plus incontestable, j'entends par là que ce n'est pas une déformation malhonnête par des sédévacantistes, que le site Vatican News l'écrit. Catholiques et méthodistes ont la même foi. Enfin, quel est le titre de l'article plus entièrement sur le...
Précisément. Catholiques et méthodistes professent la même foi, assure François.
Voilà. Donc mon cher Fidé Fidélis qui est là à tous nos rendez-vous et qui est dans le chat, vous allez expliquer aux gens du chat, premièrement, en quoi vous êtes en communion avec les méthodistes, et vous allez leur expliquer, en quoi, parce que c'est votre pape, Bergoglio, n'est-ce pas ? Donc vous êtes en communion avec votre pape, on est bien d'accord. Hein ? Bon. Donc vous allez leur expliquer en quoi vous avez la même foi que les méthodistes. Je serai ravi d'avoir votre explication. J'aimerais vraiment savoir comment ça se passe dans le cerveau d'un moderniste qui se dit catholique. Voyez. Donc, expliquez-nous ça dans le chat, mon cher Fidé Fidélis, soyez gentil. En tout état de cause, chers amis, Bergoglio est cohérent. Il est parfaitement cohérent. Pourquoi ? Bergoglio nous dit que catholiques et méthodistes ont la même foi. Donc il met sur le même plan la foi catholique nécessaire au salut, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, nous dit saint Paul, avec l'hérésie qui damne. C'est une hérésie grossière. C'est une hérésie grossière. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vont nous opposer nos contradicteurs habituels sur cette question. Nous rappelons que la foi est définie par le Concile de Trente comme l'adhésion aux vérités révélées de Dieu. Donc seuls les catholiques, techniquement parlant, ont la foi, puisque eux seuls par l'Église, adhèrent à toutes les vérités révélées de Dieu. Mais vous disais-je, Bergoglio est cohérent. Pourquoi ? Il nous dit aujourd'hui qu'il a la même foi que les méthodistes. Hier, la secte moderniste nous a dit qu'elle avait la même foi que les monophysites. Rappelez-vous, la secte moderniste, c'était Jean-Paul II à l'époque, a canonisé le monophysite Grégoire de Narek. Et Bergoglio a fait du monophysite Grégoire de Narek un docteur de l'Église, chers amis. Par définition, les catholiques ont la même foi que les docteurs et les saints, que les docteurs de l'Église et les saints. Donc ils prétendent qu'ils ont la même foi qu'un monophysite. Il y a quelques mois de ça, chers amis, Bergoglio a canonisé, comment s'appelle-t-il déjà, Isaac de Ninive. D'aucuns disent, mais non, c'est pas une canonisation. Bien sûr que c'est une canonisation. Et tout le monde l'a entendu comme tel. D'autant plus que Bergoglio demande à Isaac de Ninive d'intercéder pour lui. Donc, excusez-moi. Bon. Isaac de Ninive était nestorien. Donc Bergoglio nous dit qu'il a la même foi que nestorien, puisque c'est un saint, soi-disant, Isaac de Ninive. Les catholiques, par définition, sont censés avoir la même foi que les saints. Vous êtes bien d'accord? C'est pas un sophisme de ma part que de dire ça. Un catholique a la même foi que saint Thomas d'Aquin, que saint Pie X, et qui sais-je encore. Bon. Donc Bergoglio nous dit qu'il a la même foi que les méthodistes, il a la même foi que les nestoriens, il a la même foi que les monophysites. Pourquoi tout cela? Saint Pie X nous donne la réponse. Pascendi, saint Pie X nous dit le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Eh bien, les modernistes vont piocher dans toutes les hérésies. Ils vont piocher chez les méthodistes, chez les nestoriens, chez les monophysites, etc., etc., etc. Au-delà de tout ça, je crois qu'il y a un enjeu conjoncturel pour la secte. Quel est-il? Le cheval de bataille actuel pour les modernistes, c'est l'instauration d'un ministère féminin. Donc ils veulent que les femmes intègrent la hiérarchie de l'Église. Bergoglio, d'ailleurs, a nommé une femme, je crois, à la tête du Vatican, là, récemment. Bon. Donc, quelle est l'idée? Bergoglio veut insérer dans le crâne de ses fidèles que la foi est compatible avec une Église qui a une hiérarchie qui comporte des femmes. Il se retrouve face à une secte dont la hiérarchie comporte des femmes, donc il dit à ses fidèles qui se croient catholiques, mais malheureusement qui ne le sont pas parce qu'ils sont modernistes, nous avons la même foi qu'eux. Donc comme nous avons la même foi qu'eux, ça justifie le fait que nous intégrions nous aussi des femmes dans notre hiérarchie. Voilà. Donc Bergoglio, je pense, a fait cette sortie pour préparer les esprits, pour préparer le terrain du ministère féminin. Voilà, chers amis, ma petite spéculation sur le sujet. Troisième point, d'actualité spirituelle. Nous avons évoqué, lors de l'émission précédente, un document de la conférence épiscopale italienne, selon lequel il faut ouvrir les portes des séminaires aux... À qui, Pierre Tirmont? Aux...
Femmes.
Non. Aux homosexuels. Aux homosexuels. Tant qu'ils n'adhèrent pas, nous dit-on, au mouvement LGBT, remarquez, ça aurait pu, hein, les femmes, hein. Tant qu'ils n'adhèrent pas au mouvement LGBT, donc ça sera les lesbiennes probablement d'ailleurs dans quelques années pour les modernistes. Bref, donc tant qu'ils n'adhèrent pas au mouvement LGBT et tant qu'ils restent abstinents. Tout ça est quand même curieux, chers amis, parce que la vie en séminaire pour les intéressés serait une occasion prochaine de péché permanente. Et ça serait un lieu de tentation permanente. C'est pas comme ça qu'on se prépare à la vie sacerdotale. Hein, on a des textes de Pie XII, d'ailleurs, qui nous expliquent qu'au contraire, il faut se mortifier pour lutter contre les tentations d'impureté, etc. Là, ça serait totalement l'inverse. Bref. Il y a une dizaine de jours de cela, le fameux abbé Raffray, qui appartient à l'ex-communauté Ecclesiadei, Institut du Bon Pastis. Donc l'abbé Raffray est passé chez Sud Radio pour défendre la décision de la conférence des évêques italiens, selon laquelle il faut ouvrir les portes des séminaires aux homosexuels. Bon. Pour cela, il a déployé toute une série d'arguments, et dans le flux de ses paroles, il a dit à trois reprises, chers amis, au moins, que l'hétérosexualité était une tendance. Il a utilisé la formule « tendance » hétérosexuel. Connaissez-vous un hétérosexuel sur Terre, chers amis, qui dit « j'ai des tendances hétérosexuelles ». Moi, j'en ai jamais rencontré. Hein. Bon, bref. Une fois encore, malheureusement, l'abbé Raffray s'attaque à l'enseignement de l'Église. L'Église n'enseigne pas que l'homosexualité est une l'homosexualité, que l'hétérosexualité est une tendance. L'Église enseigne que l'hétérosexualité est la nature. Désolé. Et on ne peut pas mettre les péchés d'impureté, nous enseigne l'Église, hétérosexuel et homosexuel, sur le même plan. Le catéchisme de Saint-Pilice, alors ce sont tous les deux des péchés mortels, mais le catéchisme de Saint-Pilice nous dit que le péché contre nature crie vengeance devant Dieu. Vengeance devant Dieu, chers amis. Et, c'est Sainte Catherine de Sienne, je crois, qui a fait un ouvrage qui s'appelle... c'est un livre sur les dialogues, et c'est le Christ qui lui parle, et qui raconte... les péchés qui le choquent concernant les prêtres. Et il évoque certains prêtres qui, effectivement, pêchent par péché contre nature. Et le Christ dit que ce péché le choque tellement lui-même que ça choque également aussi les démons. C'est-à-dire que les démons ont une nature angélique, donc ils poussent, nous dit Sainte Catherine de Sienne, citant notre Seigneur, ils poussent à ce péché, mais ils n'osent pas regarder. Vous voyez ? Bref, donc, l'hétérosexualité, vous disais-je, selon l'Église catholique, c'est la nature. Bon. L'abbé Raffray nous a toujours dit, me semble-t-il, venir d'une famille catholique. Donc il n'a pas pu ignorer cela. C'est pas possible qu'il ait ignoré cela. Bon. Donc pourquoi est-ce que je souligne tout ça, chers amis ? Pourquoi ? Pour illustrer quelque chose d'important. Le modernisme infecte doctrinalement les tradis. Parce que tous les tradis que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., communauté ecclésiastique, fraternité Saint-Pilice, même les Williamsoniens, ils sont tous en communion avec Bergoglio. Tous, dans leur messe, sont unacum Bergoglio, et comme nous l'avons vu en citant le chanoine Le Courtier, unacum, c'est un signe sacré de communion avec le pape. Ils sont donc, malgré leur critique parfois du progressisme, mais de vous à moi critiquer un père Mathieu ou un Bergoglio, ça ne mange pas de pain, hein, donc ils sont tous en communion avec Bergoglio, le vicaire de Satan. Résultat, ça les infecte doctrinalement. Voilà. Cette union avec le modernisme, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les fait basculer doctrinalement, quelles que soient leurs bonnes intentions initiales, qui ne sont pas remises en cause, ce n'est pas la question. Voilà. Donc, les tradis, à cause de cet unacum, eh bien, tombent dans l'hétérodoxie. Bref, chers amis, la communion avec le modernisme inflige des séquelles doctrinales. Et je rappelle que, dans le Teiji Tour de la Messe, on ne peut citer que des personnes qui ont la foi. Donc, quand les tradis citent Bergoglio dans le Teiji Tour, ils disent face au monde et devant leurs fidèles que Bergoglio a la foi catholique. Prière de ne pas rire, chers amis. Voilà. Bergoglio l'a suffisamment démontré, c'est un destructeur d'âme. Voilà. Alors maintenant, nous allons arriver à la première partie de cette émission qui est consacrée à Mel Gibson. Mel Gibson est récemment passé chez un célèbre, on dit podcaster, youtubeur américain, qui s'appelle Joe Rogan. Est-ce que vous pouvez voir combien de vues a fait Pierre-Tirement cette émission
Je vais aller voir cela.
La dernière fois que j'ai vu, on était à 9 millions de vues, chers amis.
Ah oui.
On en est loin ici, hein. On en est loin.
Ouais, 9 millions 100 000 vues.
Voilà. Donc, chers amis, lors de cette émission chez Joe Rogan, Mel Gibson a tenu des propos cédévacantistes. À ma connaissance, ce sont les propos cédévacantistes les plus entendus de toute l'histoire. 9 millions de vues, c'est gigantesque. D'autant que ces propos ont été repris sur de très nombreuses chaînes. Nous citerons tout à l'heure un extrait de cette émission. Eh ben là, nous avons pris cet extrait sous-titré sur une chaîne Françoise, et on en était à 70 000 vues. Vous voyez, donc, si on prend les reprises, toutes les reprises de ces extraits à travers le monde, on est probablement autour de 10 millions. Taylor Marshall également, hein, l'un des youtubeurs conciliaires les plus suivis, est revenu sur ses propos. Hein. Donc, Mel Gibson a tenu récemment les propos cédévacantistes les plus entendus au monde. Voilà. Il donne une lumière gigantesque à ce combat. Mettons les points sur les i concernant Mel Gibson, chers amis. Mel Gibson vient d'une famille catholique, vraiment catholique. Donc son père, Eaton Gibson, était un auteur cédévacantiste des années 70-80. Et courageusement, eh bien, il dénonçait l'imposture moderniste et il dénonçait les faux papes. Les faux papes modernistes. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige à dire que Eaton Gibson faisait une erreur doctrinale sur un point. Il rejetait la lignée Lefebvre pour une très mauvaise raison. Selon lui, Monseigneur Lefebvre, le cardinal Liénard, pardon, excusez-moi, avait été ordonné. Le cardinal Liénard, selon Eaton Gibson, était franc-maçon, ce qui rendait invalide ses ordinations et ses sacres. Or, Monseigneur Lefebvre avait été ordonné et sacré par le cardinal Liénard. Bon. Tout cela ne tient pas, chers amis, à aucun point de vue. Premièrement, il n'a jamais été démontré que le cardinal Liénard était franc-maçon. Jamais. Le marquis de la Franquerie a écrit des bouquins qui peuvent être pas mal, mais parfois il a eu des affirmations sur des sujets très importants qui ne reposaient sur rien. Voilà. Et du coup, ça induit le lecteur à tout le moins en erreur, ce qui est assez grave, avec tout le respect que j'ai pour lui. Le marquis de la Franquerie, dans un ouvrage qui s'appelle « L'infaillibilité pontificale », dit effectivement cette phrase selon laquelle le cardinal Liénard serait franc-maçon, il aurait mieux fait de ne pas l'écrire. Parce que quand on n'a pas la preuve d'une accusation aussi grave, on ne la porte pas. Voilà. L'Église est très soucieuse de la réputation des gens. Donc avec tout le respect que nous avons pour le marquis de la Franquerie, parfois il s'emballe un peu, et là en l'occurrence il s'est un peu emballé, et encore une fois il aurait mieux fait non pas de se taire, mais de ne pas écrire cette phrase. Voilà. Donc premièrement, aucune preuve de l'adhésion à la franc-maçonnerie du cardinal Liénard. Deuxièmement, quand bien même le cardinal Liénard aurait été franc-maçon, ses sacrements auraient été valides. Que nous dit Léon XIII dans Apostolica Curae ? Il nous dit que lorsque le clerc respecte la matière, lorsqu'il respecte le rite catholique, c'est-à-dire la matière et la forme, eh bien l'intention est requise et donc le sacrement est valide, quel que soit l'état de la foi du clerc en question. Et nous avons un précédent très connu à ce sujet, qui est le cas Talleyrand. Talleyrand était un évêque catholique, il a apostasié, il a défroqué, il est devenu franc-maçon, mais néanmoins, lorsque la Révolution française a fait le schisme de la constitution civile du clergé, constitution civile d'ailleurs rédigée en grande partie et inspirée en grande partie par les jansénistes, je le dis en passant, donc quand il y a eu ce schisme, il a fallu trouver un évêque pour sacrer d'autres évêques et pour ordonner des clercs. Qui s'est occupé de ce sale boulot ? Talleyrand. Quand Napoléon a fait par la suite avec Pie VII le concordat, il a imposé qu'on maintienne dans les diocèses la hiérarchie sacrée par Talleyrand. Jamais l'Église n'a contesté la validité de cette hiérarchie. Donc ce que dit Eaton Gibson de ce point de vue-là n'était pas fondé. Infidèle d'un prêtre de mes connaissances avait fait cette remarque à Eaton Gibson et lui avait opposé Apostolica Curae. Et Eaton Gibson, avec honnêteté intellectuelle, avait reconnu s'être trompé sur ce sujet. Par ailleurs, chers amis, je sais que Mel Gibson n'a pas toujours été en état de grâce. Je le sais. Aurait-on mieux fait à sa place ? Réfléchissez-y. Mel Gibson était l'une des personnes les plus connues au monde. C'était une star d'Hollywood. Donc, il pouvait donner un exemple de catholicité à la terre entière. Est-ce que vous pensez une seule seconde que le démon pouvait laisser faire ça ? Impossible. Donc il a bourriné en termes de tentation. Aurait-on fait mieux que lui à sa place ? Les meilleurs d'entre nous, sans doute. Sans fausse modestie, je ne fais pas partie des meilleurs d'entre nous, donc je ne pense pas que j'aurais fait forcément mieux à sa place. Voilà. Bon, Pierre de Tirmont, vous aurez fait mieux, vous, mais voilà, moi, je n'ai pas atteint le niveau de hauteur morale de Pierre de Tirmont. Voilà, je l'avoue. Bon. Je sais également, chers amis, que Mel Gibson n'est pas saint Thomas d'Aquin. Voilà. Et donc, quand il parle de ces sujets publiquement, je ne m'attends pas à un cours de doctrine en béton armé. Ce qui ne veut pas dire que je m'attends à des erreurs, mais voilà. Je sais aussi que parfois Mel Gibson peut faire des choses en apparence imprudentes. Exemple. Il y a 2 ans de ça, il a fait réordonner sous condition des clercs conciliaires par un très vieil évêque conciliaire, qui a près de 100 ans. Alors, vous allez me dire, mais attendez, M. Bozzi, vous défendez que le rite de consécration épiscopale de Montigny-Paul VI est invalide. Vous devrez être content. Oui, je défends, bec et ongle, magistère à l'appui, que le rite de consécration épiscopale de Montigny-Paul VI est invalide. En l'occurrence, c'est juste un petit problème, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que l'évêque en question ait été sacré par le rite qui précède celui imposé par Paul VI. Et là, il y a un doute qui est pas possible, si vous voulez. Vous voyez ? Même si l'intéressé avait prêté serment du fait que si, mais le problème, c'est qu'il avait été sacré en 71 et que le rite de Paul VI est entré en vigueur en 68. Donc, il fallait des preuves en béton. Et à ma connaissance, on ne les a pas. Voilà. Donc, c'était un peu imprudent. À tout le moins. Mais bon, point positif, ça fait passer le message que la hiérarchie conciliaire est invalide, chers amis. Invalide. Voilà. Alors, ceci étant posé, le bon Dieu, je l'observe, se sert parfois de Mel Gibson pour la bonne cause. D'abord, vous le savez tous, Mel Gibson est le réalisateur du célèbre film La Passion du Christ. Tous les prêtres qui m'ont parlé de ce film m'ont dit que c'était un bon film. Et c'est un moyen d'apostolat, ce film. Bon, donc là, il a agi, je pense, dans le sens des intérêts de l'Église. Et il a été récompensé d'ailleurs, puisque le film a coûté 30 millions d'euros, il en a rapporté 430 millions. 430 millions. Et d'ailleurs, pour la préparation de ce film, il avait convoqué aux États-Unis Louis-Hubert Rémy. Vous voyez ? Incroyable. Cette jonction n'allait pas de soi, franchement. Par ailleurs, quand Mgr Vigano s'est fait, entre guillemets, excommunier par la secte moderniste, Mel Gibson l'a soutenu et lui a envoyé une lettre de soutien. Ce qui était aussi une façon de donner de la lumière au combat Nanunakum. Et aujourd'hui, eh bien Mel Gibson fait ses citations sédévacantistes chez Joe Rogan. Alors, avant de vous mettre l'extrait, qu'a-t-il dit ? Plusieurs choses. D'abord, il a qualifié les autorités conciliaires de fausse église et de contrefaçon. Donc il nous dit que c'est une secte. Ensuite, il a qualifié Jean XXIII d'antipape, ce qui vaut donc pour ses successeurs modernistes. Ensuite, il a soutenu Vigano. Il a dénoncé l'apostasie via Pachamama. Et il a parlé du cas du cardinal Siri. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans le conclave de 1958, certains disent que le cardinal Siri aurait été élu, mais que par la contrainte, on l'aurait fait renoncer à l'acceptation. Ce qui aurait donc vicié le conclave, et derrière, ça serait Ronquelli Jean XXIII qui aurait été élu. C'est une possibilité, chers amis, mais à l'heure où je vous parle, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve de ça. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'essaie de ne pas me baser là-dessus. Pour dénoncer l'imposture moderniste, et pour la démontrer, de toute façon, on a une arme fatale, qui est le magistère de l'Église. Voilà. Donc, si demain on a des preuves de ça, ça viendra confirmer ce que nous savions déjà via le magistère de l'Église, mais dans l'absolu, on n'a pas besoin de soulever ce dossier. Voilà. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bah, Pierre Tiron, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit extrait de notre cher Mel Gibson. Voilà. Je lance.
You know, when they appoint some cardinal in some diocese and he's been covering up for like people who are child molesters,
yes,
or, you know, like Theodore McCarrick or Cardinal mm-hmm. Wuerl or those kind of guys. The institution, it was instituted by Christ, you know, but that doesn't mean that it can't be flawed. And there's a school of thought that says it isn't what it purports to be anymore. It's moved away from what it was intended to be and what it is.
almost, there's a guy called Bishop Vigano who says it's a counterfeit parallel church. And it's running an entirely different religion. I don't adhere to a post-conciliar church. There was an event that happened in the 60s. First, there was an event in the Vatican where they elected John the 23rd Pope, right? In 1958, I was 2 years old, right? He was elected, and it was a very funny thing that happened in the conclave. You know, usually there's white and black smoke that goes out of the chimneys to tell you, we have a pope, you know, Habemus Papam, mm-hmm. you know, and the white smoke came out. And everybody cheered and they went crazy. And then about a half an hour later, black smoke came out. That never in history has that happened, that the white smoke came out and then the black smoke in the conclave, and black smoke would come out many times, maybe. Maybe it would take 2 weeks. But never was it known that white smoke came out, then black smoke came out, that somebody was elected, and that maybe something else happened, and he was pushed aside and someone else was put in. And, of course, the man who came out was a man called Angelo Roncalli, and he was John the 23rd. Now, it's interesting to note that never had a pope taken the name of another pope ever before in history. But this man took the name of a known anti-pope from the 15th century that Cosimo de' Medici put in there as his own man. I'll get you on the chair and then everything will be rosy. You know, everything will go good for business, you know, whatever he was putting him in there for, some corrupt reason. But, and there have been corrupt men in that place before. I mean, there's Alexander the Sixth and Julius the Second and Sixtus the Fourth. I mean, so he took the name of a known anti-pope from the 5th century who actually said, yes, I'm an anti-pope. Sorry, I'm not the right guy, because there was more than one and he confessed to being, and he wanted to, you know, square things with the Almighty, I guess. So he confessed to being an anti-pope. And so he took the same name as that guy, John the 23rd. So it's interesting, don't you think? I mean, why would he do that? And, I think it's all part and parcel of the same corruption that crept in. And when you asked what's the difference between pre-Vatican II, so Vatican II happened, and of course they took the church and they reformed it and they changed things in it. And it didn't necessarily agree with everything that went before it.
Mm.
And up to that point, yeah, you could find it agreed with itself. But all of a sudden, you got something else. To the point where now, I mean, we got a pope that brought a South American idol into the church to worship. He did, the Pachamama. He bought the South American, and it's kind of a weasel-worded thing of like, oh, all religions are just as good as one another. But, you know, if that's his contention, so you can't do that. And for me, that's a departure from...
But, yeah.
You know, that's called apostasy.
Right.
That's a falling away from it. And the very nature of apostasy means that you have to be part of it to fall away from it.
Mm-hmm.
So it's an inside job.
Ah.
Yeah.
Donc, chers amis, vous avez vu ces paroles de Mel Gibson prononcées devant 10 millions de personnes. Voilà. Et c'est une très heureuse nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire connaître le combat cédévacantiste à des millions de personnes qui l'ignorent probablement. Et ça le crédibilise auprès de beaucoup de gens. Je rappelle, chers amis, que c'est le devoir de tous les catholiques de défendre la foi catholique. Écoutons Saint Pie X dans Singulari Quadam Caritate. Donc, j'ai pas fait de pièce pour Pio XII parce que je n'avais pas pensé à la faire. Le devoir de tous les catholiques est de garder fermement et de professer sans timidité les principes de la vérité chrétienne enseignés par le magistère de l'Église catholique. Léon XIII, Sapiens Christiane, allez lire, chers amis, Sapiens Christiane, c'est une encyclique formidable. Dans le déluge universel d'opinion, c'est la mission de l'Église de protéger la vérité et d'arracher l'erreur des âmes. Quand les circonstances en font une nécessité, ce ne sont pas seulement les prélats qui doivent veiller à l'intégrité de la foi, mais comme le dit saint Thomas, chacun est tenu de manifester publiquement la foi, soit pour instruire et encourager les autres fidèles, soit pour repousser les attaques des adversaires. Léon XIII reprend, reculer devant l'ennemi et garder le silence lorsque de toutes parts s'élève contre de telles clameurs, lorsque de toutes parts s'élève de telles clameurs contre la vérité, c'est le fait d'un homme sans caractère ou qui doute de la vérité de sa croyance. Dans les deux cas, une telle conduite est honteuse et elle fait injure à Dieu. Elle est incompatible avec le salut de chacun et avec le salut de tous. Elle n'est avantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi, car rien n'enhardit autant l'audace des méchants que la faiblesse des bons. Donc, tous les catholiques ont le devoir de défendre la foi, y compris les laïcs. Autre citation de Léon XIII, toujours issue de Sapiens et Christiane. Les premières applications de ce devoir consistent à professer ouvertement et avec courage la doctrine catholique et à la propager autant que chacun le peut faire. En effet, on l'a dit souvent et avec beaucoup de vérité, rien n'est plus préjudiciable à la sagesse chrétienne que de n'être pas connu. Rien n'est plus préjudiciable à la sagesse chrétienne que de n'être pas connu. Donc on voit que quand Mel Gibson fait connaître la problématique des vacantistes au monde, eh bien, il est utile. Même si ce n'est pas saint Thomas d'Aquin, et même si on aurait aimé qu'on aurait préféré qu'il nous cite le magistère. Mise en lumière, donc la sagesse chrétienne, elle a par elle-même assez de force pour triompher de l'erreur dès qu'elle est saisie par une âme simple et libre de préjugés. Elle a aussitôt pour elle l'assentiment de la saine raison. Que chacun donc se souvienne qu'il peut et qu'il doit répandre la foi catholique par l'autorité de l'exemple et la prêcher par la profession publique et constante des obligations qu'elle impose. Léon XIII, Saint Pie X, nous demande, chers amis, de défendre la foi catholique, de la propager et de la répandre autant que faire se peut. Pour conclure, concernant Mel Gibson, Trump vient de nommer Mel Gibson, donc le cédévacantiste Mel Gibson, vient de le nommer, en quelque sorte, ambassadeur à Hollywood. À l'instar de Stallone, d'ailleurs. Soyons clairs, chers amis, c'est probablement une coquille vide, ce titre. Bon. Mais ce faisant tout de même, Trump a mis une gifle non seulement au progressisme mondial, mais aussi aux tradis et à une partie du camp national qui n'a qu'une crainte, ou plutôt qui n'ont qu'une crainte, chers amis, qui sont tétanisés à l'idée d'être de près ou de loin associé au cédévacantisme, je suis payé pour le savoir. Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Trump, le protestant, est plus courageux qu'une grande partie des pseudo-catholiques que sont les tradis et des pseudo-catholiques du camp national. Voilà. Nous en arrivons maintenant, chers amis, à la deuxième partie de l'émission qui est consacrée à la réfutation des récentes attaques contre le cédévacantisme. Et je rappelle que le cédévacantisme, chers amis, ce n'est que la foi catholique appliquée à la situation actuelle. Donc quand on attaque le cédévacantisme, on attaque la foi. C'est aussi simple que cela. Alors, le cédévacantisme, petit à petit, est en train de devenir un sujet incontournable, alors qu'il était extrêmement confidentiel il y a encore peu. Si incontournable, chers amis, que ses ennemis sont obligés de se positionner aujourd'hui à ce sujet. Et concrètement, ça se traduit par le fait que les modernistes et les tradis sont obligés d'en parler et de rendre des comptes à leurs fidèles qui les interrogent là-dessus. On l'a vu récemment. L'abbé Salnave et les Capucins de Morgon ont récemment donc attaqué la foi catholique pour nous dire que Bergoglio était bien pape et pour nous dire qu'il était à la tête de l'Église catholique et non pas d'une secte. Alors, dans la semaine qui vient de s'écouler, plusieurs figures modernistes, dites conciliaires, sont venues attaquer la foi catholique, c'est-à-dire le cédévacantisme en l'espèce. Qui sont-ils ? D'abord, une chaîne YouTube qui s'appelle Credo, et qui est tenue, semble-t-il, par des clercs conciliaires diocésains. Ensuite, nous avons eu Guy Pagès, qui a remis une couche. Et enfin, nous avons un métis franco-égyptien, né sous le Front populaire. Alors commençons, chers amis, par la chaîne Credo. Comment s'est-elle attaquée au cédévacantisme? Alors, ils ont fait deux, ce qu'on appelle shorts, donc deux courts, n'est-ce pas, voilà, sur YouTube. Et il y a une première vidéo où un clerc conciliaire développe contre le cédévacantisme, et il y a une autre vidéo où ils défendent la pratique de l'incinération. Et je soupçonne très fortement que cette vidéo soit une réplique à la vidéo que nous avons faite sur Défense de la foi concernant l'incinération. Je rappelle, chers amis, que l'Église catholique réprouve très fortement l'incinération, alors que la secte moderniste l'approuve. De même, c'est comme pour l'éducation sexuelle. L'Église catholique condamne, Bergoglio l'approuve dans son exhortation apostolique, Amoris Laetitia. D'ailleurs, Pierre Simon, s'il vous plaît, recherchez-moi une exhortation apostolique de Pie XII sur les séminaires et sur la vie religieuse, puisque c'est une exhortation apostolique, et Pie XII nous dit que son acte est un acte du magistère suprême. Donc qu'on ne vienne pas nous dire, chers amis, que Amoris Laetitia n'est pas officiellement, ne fait pas officiellement partie du magistère. Si vous trouvez ça, vous seriez un vrai. Voilà. Alors, quels sont les arguments, chers amis, développés par la chaîne YouTube Credo contre le cédévacantisme? Citation. Le Christ a assuré qu'il y aurait toujours quelqu'un pour assurer la barque de Pierre. Alors, si on prend cette phrase au mot, théologiquement, elle ne veut rien dire. Quelqu'un, on ne sait pas qui, assurer la barque de Pierre, c'est pas très précis. Bon. Mais, je crois comprendre que l'auteur de la vidéo signifie ce qu'on nous a déjà opposé, à savoir l'idée qu'il y aurait toujours un pape ou qu'une vacance de siège ne peut pas être trop longue. Cet argument, chers amis, n'a absolument aucun fondement de foi divine. Pardon. Aucun fondement magistériel. C'est une pure invention. Le magistère n'enseigne pas, chers amis, qu'il n'y aura jamais de vacances de siège trop longues. Ça n'a jamais été enseigné par le magistère de l'Église. Et souvent, nos contradicteurs, pour affirmer cela, font soit un sophisme volontaire, soit un contresens sur un passage du Concile Vatican I. Que nous dit ce passage en question? Il nous dit que la primauté de Pierre sera perpétuellement dans l'évêque de Rome. Donc, je répète, on nous dit que la primauté de Pierre sera perpétuellement dans l'évêque de Rome. Et chez nos contradicteurs, il y a une sorte de glissement doctrinal, et ça se transforme en « il y aura une occupation ininterrompue du siège. Il y aura perpétuellement un évêque de Rome. » Mais encore une fois, ce n'est pas du tout ce qu'enseigne l'Église. L'Église nous dit « la primauté est perpétuellement dans l'évêque de Rome », elle ne dit pas « il y aura une occupation ininterrompue du siège ». Et d'ailleurs, chers amis, pour qu'il y ait une occupation ininterrompue du siège, il aurait fallu que Saint-Pierre soit immortel. Oui, techniquement, je suis désolé. Bon. Je rappelle qu'avant Vatican II, il y a eu des décennies et des décennies de vacances de siège. La vacance de siège la plus longue a duré 13 ans, de 1033 à 1046. Il y a eu des vacances de siège qui ont duré 7-8 ans, quand il y a eu le règne du faux pape Christophore et Sergius III, qui se sont succédés. Et d'ailleurs, Christophore a été considéré par l'Église pape officiellement pendant près de 1000 ans, et il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que l'on tranche son cas et qu'on dise que, en réalité, c'était un faux pape. Oui. Au XIIIe siècle, il y a aussi des vacances de plusieurs années de suite. Enfin bref, ça ne tient pas la route. Donc l'argument principal de la chaîne Credo, je le répète, n'a absolument aucun, n'est adossé par aucun argument d'autorité. Le propos n'est adossé par aucun argument de foi divine, par aucun texte magistériel. Absolument aucun. Donc, chers amis de la chaîne Credo, il va falloir revoir votre copie.
Est-ce que c'est Mantinostré que tu vois?
Ouais, c'est ça. Alors, faites un petit contrôle F, magistère.
Magistère, j'ai trois résultats.
Bah, c'est au début du document. Magistère suprême, il dit.
Le point, oui, tu veux la phrase entière?
Ouais, oui, oui.
Réfléchissant attentivement à de telles paroles, nous jugeons qu'une des principales obligations de notre magistère suprême est de veiller de notre mieux à ce que les efforts des vénérables pasteurs et des prêtres chargés...
Et disant cela, il parle de son exhortation apostolique, qui traite justement des séminaires et de la façon dont il faut veiller sur les prêtres, etc. Donc Pie XII nous dit que son exhortation apostolique relève du magistère suprême. Donc qu'on ne nous dise pas que Amoris Laetitia, qui traite de foi et de mœurs, n'est pas officiellement un texte du magistère qui relève de l'infaillibilité. Ça, c'est de l'hypocrisie absolue. Ou de l'ignorance. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute, Pie XII a tranché la question. Merci Pie XII, à qui on doit tant. Voilà. Alors ensuite, la chaîne Credo soulève un argument très intéressant. Ils nous disent ceci. Ils nous disent qu'être cédévacantiste, ce serait un manque de foi envers l'Église. Et là, chers amis, nous sommes dans une colossale inversion accusatoire. Je vous ai souvent dit que seule la position cédévacantiste reposait sur la foi catholique. Là, on va en avoir l'illustration. Et je vous dis que seuls les cédévacantistes, en réalité, contrairement à ce que nous disent nos contradicteurs, ont foi dans l'Église. Car seuls les cédévacantistes font respecter la constitution divine de l'Église. Seuls les cédévacantistes, chers amis, ont foi dans l'Église parce que eux seuls font respecter et tirent les conséquences de l'indéfectibilité de l'Église et de l'infaillibilité pontificale. Exemple, seuls les cédévacantistes disent que l'Église ne peut pas professer l'erreur en matière de foi et de mœurs. Seuls les cédévacantistes disent qu'il n'est pas possible que l'Église institue des sacrements bidons, invalides. Seuls les cédévacantistes disent qu'il n'est pas possible que l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ instaure des rites homosexualistes, comme c'est le cas de Fiducia Supplicans, qui autorise la bénédiction des couples homosexuels. C'est dans le texte, mot pour mot, n'en déplaise à mes contradicteurs. Donc ce qui est banni, c'est l'homosexualité. Même si il peut y avoir des textes où on condamne encore officiellement l'homosexualité. Ils ont un rite homosexualiste qui autorise la bénédiction des couples homosexuels. Point. Et seuls les cédévacantistes disent, chers amis, que l'Église ne peut pas multiplier, et les papes ne peuvent pas multiplier les actes d'apostasie. Seuls les cédévacantistes disent cela, je le répète, parce qu'ils défendent et parce qu'ils tirent les conséquences de l'indéfectibilité de l'Église et de l'infaillibilité pontificale. Et à côté de ça, qu'avons-nous, chers amis? Nous avons les modernistes, qu'ils soient conservateurs ou qu'ils soient progressistes assumés. Et à leur côté, nous avons les tradis, Fratelli Saint-Pédis, groupe Williamsonien, ex-communauté Ecclesia Dei, conciliaires conservateurs, etc. Nous avons les tradis qui nous disent mais qu'un pape et que l'Église professent la foi en matière de foi et de mœurs, c'est compatible avec la constitution divine de l'Église. Le fait qu'on instaure des sacrements bidons, c'est compatible avec la doctrine de l'Église. Ça, il n'y a que la Fraternité Saint-Pédis qui le dit. Le fait qu'on instaure un rite homosexualiste, c'est compatible, nous disent les modernistes conciliaires et les lefévristes, c'est compatible avec la constitution divine de l'Église, puisque c'est ce que nous observons. Quand j'ai débattu avec Mathieu Lavagna, il a défendu ce rite homosexualiste. Et je répète, les modernistes qui soient conciliaires progressistes, avec eux, les lefévristes nous disent, mais il est compatible avec la constitution divine de l'Église que le pape multiplie les actes d'apostasie. Voilà. Donc, chers amis, pour résumer, faire le constat de la vacance du siège, c'est avoir foi en l'Église et c'est respecter la constitution divine de l'Église. En revanche, faire croire, chers amis, que les apparences que nous observons sont compatibles avec la constitution divine de l'Église, c'est manquer de foi en l'Église et c'est nier les dogmes de l'indéfectibilité de l'Église et de l'infaillibilité pontificale. Qui défend l'infaillibilité pontificale? Qui défend aujourd'hui l'indéfectibilité de l'Église? Ce sont les nonacum. Puisque les conciliaires et les lefévristes nous disent tous deux que le cirque auquel nous assistons depuis près de 70 ans est compatible avec la constitution divine de l'Église. C'est une mauvaise farce, chers amis. Et c'est une farce qui coûte très cher aux âmes. Ensuite, les clercs conciliaires de Credo nous disent « Peut-être que les hommes sont compliqués, mais on ne choisit pas qui sont nos pères. » Et ça, c'est très intéressant parce qu'une fois encore, on retrouve ce qu'on avait évoqué avec Jean-Pierre Maugendre et avec les tradis. On s'accroche plus aux apparences trompeuses qu'aux dogmes. Ce que je vous oppose, chers clercs conciliaires de la chaîne Credo, c'est que ceux qui professent la foi, et vous, en particulier les pseudo-papes, là, ceux qui ne professent pas la foi en matière de foi et de mœurs, ceux qui professent l'erreur en matière de foi et de mœurs, ne sont pas nos pères dans la foi. Ils ne sont pas les pasteurs légitimes. Ils ne sont pas la hiérarchie légitime. Quand on fait prévaloir le dogme sur les apparences, c'est la conclusion à laquelle on aboutit. Et je crois qu'il y a une phrase des évangiles qui nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Or, vous, vous voulez vous rattacher à ce que vous voyez. Mais je vous dis, rattachez-vous plutôt au dogme. Voilà. Donc, ne sont pas nos pères dans la foi, ne sont pas la hiérarchie légitime, ne sont pas les pasteurs légitimes. La hiérarchie et les pseudo-papes, en premier lieu, qui professent l'erreur en matière de foi et de mœurs dans leur pseudo-magistère. Point. Ensuite, on nous dit qu'il faut se soumettre humblement aux aléas du temps. Mais soyons clairs, c'est pas seulement un aléa accidentel du temps ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est une secte moderniste qui se fait passer par l'Église depuis 70 ans. C'était pas accidentel. Et ça n'a pas été quelque chose de très momentané. Non, vous vous soumettez à autre chose que l'Église. Se soumettre à une secte hérétique et schismatique, ce n'est pas de l'humilité, c'est un suicide spirituel. Combattre le modernisme, ce n'est pas de l'orgueil, c'est vouloir sauver son âme et combattre pour l'Église. Voilà. On ne veut pas appartenir à votre fausse Église. Voilà. On ne veut pas adorer Pachamama. On ne veut pas adhérer à toutes les hérésies folles de Bergoglio et de ses prédécesseurs. Excusez-nous. Dans notre Église à nous, la vraie, celle qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, eh ben, il n'y a pas de rite homosexualiste. Il n'y en a pas. Voilà. Dans l'Église des conciliaires et de l'éphéris, il y a un rite homosexualiste. De fait. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette chaîne YouTube Credo, mais si les clercs conciliaires de cette chaîne YouTube m'écoutent, et je crois qu'ils m'écoutent, puisqu'ils m'ont répondu, je vous invite à répliquer. L'échange pourrait être très intéressant. Ensuite, petit retour sur l'entre guillemets abbé Guy Pagès, puisqu'il a refait parler lui avec ce qu'on appelle donc un fameux short. Alors, il ne me cite pas, mais c'est à moi qu'il répond, puisqu'il maintient qu'il peut y avoir des papes hérétiques. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris à son propos, parce qu'il y a un moment donné où ce n'est pas très clair ce qu'il raconte. Mais je crois en tout cas bien comprendre qu'il maintient que des papes peuvent être hérétiques. Et là, on voit que l'abbé Guy Pagès est pertinace, chers amis. C'est-à-dire que il fait plusieurs vidéos, plusieurs textes dans lesquels il diffame des papes en les qualifiant d'hérétiques. Nous lui opposons, première chose, le dogme. L'Église enseigne très clairement que un pape ne peut pas professer l'hérésie en matière de foi et de mœurs. On se comprend. Un pape ne peut pas professer l'erreur en matière de foi et de mœurs dans le cadre de son magistère. C'est écrit mot pour mot par Léon XIII dans Satis Cognitum. Il nous dit que sa foi ne peut défaillir dans l'exercice de ses fonctions, dans toutes ses fonctions. Et puis bon, il y a maintes et maintes citations du magistère qu'on a citées à ce micro, dans lesquelles on dit que le pape ne peut pas défaillir et son magistère ne peut pas connaître l'erreur. Bon. Et aussi, ben, factuellement, on a repris Guy Pagès, cas pour cas, et on a vu qu'à chaque fois, ce qu'il disait ne reposait sur rien d'un point de vue factuel. Mais il ne nous écoute pas, et il maintient que des papes peuvent être hérétiques. Monsieur l'abbé Guy Pagès, vous êtes pertinace, vous niez l'infaillibilité pontificale, et vous calomniez des papes. Voilà. Bon, ben, moi je souhaite que vous vous rétractiez. Voilà. Tout catholique, par charité, souhaite que vous vous rétractiez, et que vous adhériez enfin à l'infaillibilité pontificale. Voilà. Et enfin, chers amis, j'en arrive au dernier morceau du jour. Je me suis fait clasher, n'est-ce pas, comme on dit aujourd'hui, par un personnage, un métis franco-égyptien, né sous le Front populaire. Ce qui, je crois, est un cas unique au monde. Hein. Bon. L'intéressé s'attaque à ma personne et il s'attaque au CD vacantisme. Alors que les choses soient très claires, chers amis, car je ne veux pas d'équivoque à ce sujet et je ne veux pas qu'on me fasse de mauvais procès. Je n'ai rien contre l'Égypte. Je n'ai rien contre les Égyptiens, je leur souhaite le meilleur. J'aime beaucoup Astérix chez Cléopâtre et je trouve que Les Cigares du Pharaon est un des meilleurs tomes de Tintin. Voilà, je voulais dissiper tout équivoque. Donc mon contradicteur franco-égyptien attaque les cédés vacantistes depuis longtemps. Et je me souviens, et j'ai vérifié qu'en 2018, j'ai adressé une vidéo de l'intéressé à un prêtre, dans lequel mon contradicteur disait que le cédé vacantisme était sous influence, bien entièrement, vous devinez, juive.
Ouais.
Et peut-être même qu'il disait que c'était une création juive. Voilà. Donc là, mon contradicteur franco-égyptien, si vous voulez, c'est un moderniste d'un genre très particulier. C'est ce que j'appelle, j'ai inventé cette nouvelle catégorie, le moderno-conspi. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est un moderno-conspi, Pierre-Otiermont ? C'est quelqu'un qui concilie le modernisme, qui concilie la soumission au modernisme et à la secte moderniste, avec un ultra-conspirationnisme judéo-centré. Voilà. Donc c'est un cocktail assez original. Alors, quels sont les arguments qui me sont opposés par mon contradicteur franco-égyptien ? D'abord, il fait grief au cédé vacantiste, citation, de ne pas rester dans les lieux saints. Alors c'est lui et la personne qui l'interview, hein, je précise, mais ils sont copains comme cochons. Ils font grief au cédé vacantiste, citation, de ne pas rester dans les lieux saints pour mener les combats dans l'intérieur de l'Église. On m'a rarement opposé, chers amis, un argument aussi bête. Lorsqu'une église devient autre chose qu'un lieu de culte catholique, lorsqu'une église devient un lieu de culte moderniste, lorsqu'elle devient un lieu de culte gallican, un catholique n'a plus rien à y faire. Et s'il y reste, il y perd la foi. Et bien au contraire, c'est en restant dans ces lieux de culte passés au modernisme ou au gallicanisme qu'on quitte l'église. Donc là, en fait, j'ai l'impression que mes contradicteurs ne savent même pas ce qu'est l'Église, en fait. C'est assez aberrant comme argument. Hein. C'est assez aberrant. Voilà. Donc, prenons une analogie, ça veut dire qu'au XVIe siècle, lorsque les protestants se sont emparés des cathédrales, il fallait rester dans les cathédrales quand il y avait des cultes protestants dedans. Mais quelle folie de dire ça quand on se dit catholique. Quelle folie de dire ça. Non. Quand un lieu de culte qui était autrefois catholique passe au modernisme ou au gallicanisme, eh bien le catholique... Il fuit, parce qu'il faut fuir les hérétiques, et parce qu'il veut pratiquer un culte catholique et non pas un culte hérétique. C'est pas compliqué. Voilà. Alors, autre argument. Il m'est fait grief de soutenir que Dieu résoudra ce qu'on appelle pudiquement la crise de l'Église, qu'on devrait appeler d'ailleurs plutôt la passion de l'Église. Cet argument, je trouve ça assez étonnant. C'est pas les premiers à me le faire d'ailleurs, cette critique. Mais si vous avez un moyen purement humain, cher contradicteur, si vous avez un moyen purement humain pour convertir 1,5 milliard de modernistes et des millions de gallicans, je suis à l'écoute. Et je mettrai en œuvre la solution au plus vite, à mon échelle. Sauf que cette solution humaine, elle n'existe pas. Et bien entendu, seul Dieu peut résoudre une situation aussi catastrophique, aussi cataclysmique. Voilà. Et ceux qui pensent que la solution peut être purement humaine se leurrent complètement. J'ajoute, attendre que Dieu agisse pour son Église, théoriquement, ne doit poser aucun problème à un catholique. Depuis quand les catholiques ont peur de s'en remettre au surnaturel ? C'est quoi cette histoire ? Attendre que Dieu agisse pour son Église, c'est un acte de foi, c'est un acte de confiance dans la constitution divine de l'Église, et c'est un acte de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que Vatican enseigne que l'Église bénéficie de l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de problème pour ça, et le bon Dieu est intervenu dans l'histoire de l'Église à plusieurs reprises, pour l'aider, voire pour la sauver. L'Église ne peut pas défaillir, je le rappelle. Bon. Et enfin, j'ajoute que attendre une solution définitive et divine, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire d'un point de vue humain. Bien au contraire. Il me semble que Jean Vaquier, dans la bataille préliminaire, articule bien d'ailleurs les deux, hein, solution divine et humaine. Il faut à l'échelle humaine agir, il faut à l'échelle humaine combattre. Et en premier lieu, que faut-il faire ? Il faut témoigner de la vérité. Témoigner de la vérité et défendre la foi catholique, comme Saint Pie X et Léon XIII nous l'ont dit. Et je crois qu'à ce micro, eh bien, c'est ce que nous tentons de faire. Ce qui nous vaut d'ailleurs un certain nombre d'attaques. Ensuite, mon contradicteur et la personne qui l'interroge nous disent à mon sujet, il ne sait pas justifier sa position. Bah, si vous pensez que je ne sais pas justifier la position, c'est que vous n'avez pas beaucoup écouté, vous n'avez pas fait l'effort de m'écouter. Ou alors vous dénigrez et vous déformez ouvertement. Ma position, celle de tous les nonnakoum, se fonde sur le magistère de l'Église et sur la foi catholique. Sur quoi se fonde la vôtre ? Sur vos propres spéculations, et on voit que le niveau n'est pas très élevé quand même. Hein. Ensuite, vous nous dites, au sujet des CD vacantistes cette fois-ci, qu'ils abandonnent leur mère, qu'ils abandonnent l'Église. Une fois encore, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. S'éloigner des hérétiques, et s'éloigner de la secte constituée par ces hérétiques, ce n'est pas s'éloigner de l'Église. Au contraire, c'est vouloir rester dans l'Église. Et en revanche, vouloir respecter, rester dans la structure créée par les modernistes, c'est quitter l'Église. Donc là, une fois encore, il y a une inversion accusatoire. Et ce sont les conciliaires qui ont quitté l'Église en restant dans cette structure inventée par les faux papes modernistes. Et qui aujourd'hui ont un faux culte, hérétique, invalide, qui, je le répète, multiplient les actes d'apostasie, et qui, je le répète, parce que c'est quand même du lourd, ont instauré un rite homosexualiste. C'est l'Église, ça ? L'Église peut faire ça ? Sérieusement ? Bon. Et enfin, pour finir, mon contradicteur fait un sous-entendu calomnieux contre moi. Il sous-entend que je serai franc-maçon. Alors, avec quel argument ? C'est du très lourd, hein, chers amis. Hein. L'argument, c'est que lorsque j'ai débattu avec le franc-maçon Jean-Maxime Corneille, que j'ai contredit en défendant la doctrine de l'Église, j'ai été courtois avec lui. Et mes contradicteurs me disent, ils s'entendent bien, c'est suspect. Alors, Jean-Maxime Corneille, que j'ai vu deux fois dans ma vie, hein, à qui j'ai parlé hors micro pendant à peu près 5 minutes, selon eux, le fait que je sois courtois avec lui, c'est une preuve que je sois franc-maçon. Donc ça veut donc dire que si je m'entends bien avec un musulman, ça veut dire que je suis musulman. Si je m'entends bien avec un juif, ça veut dire que je suis juif. Si je m'entends bien avec un athée, ça veut dire que je suis athée. Mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements de débiles mentaux ? Non mais franchement, quoi. Est-ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils racontent, ces gens ? En tout état de cause, tant mon contradicteur franco-égyptien que la personne qui l'entretient, qui l'interroge, ont porté atteinte à ma réputation. C'est pourquoi je leur donne rendez-vous devant le tribunal du bon Dieu. Et ils auront à s'expliquer de tout cela. Par ailleurs, cerise sur le gâteau, cher contradicteur, monsieur Ploncard, pour ne pas vous citer, n'est-ce pas ? Je dis bien Ploncard, puisque le Dassac, je crois, n'appartient pas à votre vrai nom, c'est une particule que vous êtes rajoutée. Monsieur Ploncard, ça fait des années que vous m'insultez, que vous me dénigrez, et que vous me calomniez. Des années. Donc, je vous propose, cher monsieur Ploncard, de débattre de la question cédévacantiste. Je sais que vous venez à Paris à échéance régulière faire des conférences. Eh bien, la prochaine fois que vous viendrez à Paris, vous débattrez contre moi. Face à face. Au passage, on verra si vous me traitez toujours de franc-maçon. Vous débattrez face à moi, face à face. Vous vous plaignez de ne pas avoir de contradicteur. Je vous offre un débat. Vous n'êtes pas une poule mouillée, donc vous n'allez pas vous défiler. Nous allons débattre, lors de notre prochain passage à Paris, de la question cédévacantiste. Et croyez bien que j'écouterai avec grand intérêt votre défense de la secte moderniste. Avec grand intérêt. Vous n'allez pas vous défiler. Je vous invite, vous et votre équipe, à envoyer un message sur le site des éditions L'Estocade, et nous allons organiser ce débat. Et vous n'allez pas vous défiler. Bien entendu. Voilà. J'en ai terminé, Pierre-Tirmont. Est-ce qu'il y a des questions intelligentes ?
Je regarde.
Rien sur le cigare du pharaon ?
Non, je l'ai bien montré. Alors, une question de France Rietveg. Un classique. Ton avis sur la thèse de Cassie Cassie.
Non mais écoutez les gars, vous n'allez pas me la faire à chaque fois. Alors soit c'est... Je n'adhère pas à la thèse de Cassie Cassie. Voilà, donc je vais pas vous le répéter 150 000 fois. Quoi.
Sur les conclavistes.
J'ai répondu à ça 150 000 fois. Allez sur l'émission que j'ai faite sur la mort de Benoît XVI. Et sur la miniature, il y a Benoît XVI et Sœur Albertine. J'ai répondu et j'ai réfuté le conclave dans cette vidéo. Allez-y.
Et troisième question, as-tu déjà entendu parler du Concile Général Imparfait pour résoudre la crise de l'Église ?
Oui, je crois, oui. Mais je pense que j'ai répondu à ça dans mon émission. Mais vous savez, c'est pas un concile imparfait qui va résoudre la crise de l'Église, c'est le bon Dieu qui va résoudre la crise de l'Église. Après, comment est-ce qu'il s'y prendra ? Avec qui ? Comment ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a que le bon Dieu qui peut résoudre la situation cataclysmique que nous vivons. Voilà. Et arrêtez de faire des plans sur la comète, j'ai envie de dire aux gens, écoutez, déjà, essayez d'être catholique, essayez de vivre en état de grâce, professez la foi, c'est déjà énorme aujourd'hui. Hein. C'est déjà énorme. Donc arrêtez les plans sur la comète et assurez au niveau des bases. Hein. Voilà.
Je n'ai rien noté de...
Alors, je m'adresse à vous, mon cher Fidé Fidélis. Vous aimez énormément balancer des pavés en commentaire et troller le chat. Votre pseudo-pape Bergoglio a déclaré qu'il avait la même foi que le moderniste. Donc vous allez nous expliquer en commentaire en quoi vous, qui avez la même foi que Bergoglio, en quoi vous avez la même foi que les méthodistes. Ça m'intéresse énormément de le savoir. Si vous n'expliquez pas ça en commentaire, les gens vont penser que vous vous défilez, ce serait quand même dommage. Donc, puisque vous aimez faire parler de vous, je vous invite à m'expliquer tout cela. Voilà. J'en ai terminé, chers amis. Je vous remercie. Je remercie Pierre Thiermont, qui était à la technique. Et voilà, donc le combat continue. Et l'objet de tout ça, c'est de défendre la foi. Chers amis, si vous n'êtes pas catholique, devenez catholique. Essayez de rejoindre une communauté nonunacum. Faites-vous baptiser. Professez la foi. Vivez en état de grâce, etc., etc., etc. C'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord, mais il faut le faire. Voilà. Je vous remercie. L'année 2025, croyez-moi, va être dense et passionnante. Et le combat continue. À bientôt.